C'est ça le titre de ma présentation, mon nom, etc. D'abord, j'aimerais remercier les organisateurs du colloque pour l'invitation qui m'a permis d'être ici, surtout à Jean-François Côté. Alors, quand ils m'ont invité à participer dans un colloque qui faisait les bilans des 20 ans d'accords de libre-échange de l'Amérique du Nord, j'avais le choix de choisir quelque chose de plus général, de répéter ce que j'avais déjà écrit ailleurs. Mais alors, je ne voulais pas risquer de répéter ce que quelqu'un d'autre allait dire. Alors, je me suis dit, il faut aller pour quelque chose de très, très récent. Alors, j'ai décidé de centrer ma présentation sur quelque chose qui vient de se passer il y a du mois, le 12 décembre 2013, qui est la réforme du secteur de l'énergie au Mexique. C'est quelque chose de tout à fait nouveau qui va probablement changer le panorama nord-américain dans des années, sinon les mois qui viennent. Alors, pour ne pas risquer à manquer de temps, aussi j'aimerais aller tout droit à l'idée centrale de cette présentation. L'idée centrale, comme je l'avais mentionné, c'est expliquer l'origine, brièvement, évidemment, l'origine de la réforme du secteur de l'énergie au Mexique. C'est une réforme qui renverse 75 ans de politique énergétique au Mexique et qui aussi change unilatéralement, il faut le dire, un régime d'exception que le Mexique avait négocié il y a une vingtaine d'années quand l'ALENA a été établi. Ce n'est pas une réforme qui était forcée sur les décideurs mexicains, il faut le dire. Et voilà. Vous demanderez peut-être pourquoi une présentation sur la politique énergétique dans une table ronde qui est après tout sur les effets culturels de l'ALENA. Bon, voilà, c'est parce que je veux proposer ici que ce revirement, ce changement de cap exprime un effet culturel, voire idéologique de l'ALENA. La rééducation de ses élites politiques, suivant un processus qui ressemble à celui que Jean-François vient de décrire, de création d'une nouvelle identité, d'une nouvelle façon de définir la nation que les élites décident et dirigent. Ce faisant, il reformule le nationalisme mexicain d'une façon tout à fait différente. Maintenant, semble-t-il, selon cette nouvelle définition, la souveraineté économique, ce n'est pas une condition pour le développement du pays, ce n'est pas une condition pour la viabilité du Mexique. Il y a une approche complètement néolibérale qui est, à mon avis, le produit des 20 ans d'ALENA. Donc, en bref, la réforme énergétique manifeste un nouveau paradigme idéologique qui résulte de l'expérience des 20 ans d'ALENA. Et voilà, là vous pouvez vous endormir, vous pouvez faire autre chose si vous voulez, parce que j'ai déjà dit mon idée centrale. Mais il faut quand même expliquer, il faut quand même donner un certain, justifier pourquoi je crois de la sorte. Le contexte, un peu pour rafraîchir vos mémoires, si vous êtes, si vous connaissez le Mexique, ou encore pour vous fournir quelques balises, si vous ne les connaissez pas. L'ordre constitutionnel du Mexique a été créé suite à la révolution entre 1910 et 1917. La constitution qui en a résulté est une constitution assez particulière parce que d'un côté, elle établit le principe tout à fait standard pour un État libéral, une république libérale. Mais en même temps donne des pouvoirs économiques exceptionnels à l'État. La protection musclée des droits de travailleurs, l'appropriation des grands domaines pour la distribution aux paysans sans terre, etc. Mais ici, on va centrer sur un de ces pouvoirs qui est le monopole étatique des ressources naturelles, dont les minéraux et le pétrole, qui a été octroyé par notamment par les articles 27 et 28 de la Constitution de 1917. Après une vingtaine d'années de citation, le gouvernement révolutionnaire mexicain a décidé en 1938 d'aller de l'avant avec l'application de ses pouvoirs de gestion économique et a décidé l'expropriation de toutes les compagnies pétrolières qui étaient actives en ce moment sur le territoire du Mexique. La plupart d'entre elles étrangères, surtout des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Suite à cette réforme, le gouvernement mexicain a pu bâtir le premier fleuron de l'État interventionniste mexicain qui s'appelle Pemex, Petróleos Mexicanos. Ceux parmi vous qui ont voyagé au Mexique, vous rappellerez peut-être que vous allez charger du gaz. Il n'y a que de stations de gaz du Pemex. Il n'y a pas de Shell, il n'y a pas de Petrobras, il n'y a rien d'autre comme on peut voir ici et dans la plupart des pays au monde. C'est justement à cause de ça que Pemex s'est donné la prérogative de gérer les monopoles sur l'énergie pétrolière au Mexique. Une fois l'expérience apprise, le gouvernement mexicain a fait la même chose en 1960, en expropriant également toutes les compagnies électriques qui sont devenues une seule grande compagnie agissant au niveau du territoire mexicain qui s'appelle toujours Commission fédérale d'électricité ou CFE. Ces deux compagnies-là ont été très importantes et le sont toujours, bien que peut-être pas pour longtemps, non seulement du côté symbolique, mais aussi du côté finances publiques. Grâce à ces deux compagnies, le Mexique a été capable de maintenir des niveaux de taxation parmi les plus bas de l'OCDE. Grâce à ces deux compagnies, le gouvernement aussi était capable de financer une politique de dépenses sociales assez agressive, surtout dans certaines périodes de l'histoire mexicaine. Donc, ces deux compagnies sont devenues, au fil des ans, les deux piliers des finances publiques du Mexique. L'importance de ces compagnies a amené le négociateur de l'ALENA au début des années 90 à exiger de leurs contreparties états-uniennes et canadiennes d'établir une exception pour le secteur de l'énergie au Mexique. En effet, si vous regardez le texte de l'accord, le chapitre 6 protège l'industrie mexicaine de l'énergie de tout traitement national, c'est-à-dire qu'elle est exemptée des investissements étrangers et privés en général, parce qu'il est reconnu, et les négociateurs de Washington et Ottawa ont été forcés de l'admettre, que la Constitution interdit de faire autrement, la Constitution mexicaine. Également, le Mexique est exempté de la clause de proportionnalité, que je ne m'attarderai pas là-dessus. Claude Vaillancourt l'a très bien expliqué hier. Pour toute fin pratique, l'énergie, c'était l'exception que le Mexique, le négociateur mexicain, a tenu mordicus à maintenir, même si pour le reste de l'économie, il y avait une libéralisation généralisée. Les choses se sont maintenues comme ça jusqu'à l'année dernière. Le 12 décembre, comme je disais dans mon introduction, la réforme a procédé. Alors, il faut comprendre un petit peu le contexte. En 2012, le PRI a regagné la présidence après avoir été en situation d'opposition pendant 12 ans. L'équipe qui est arrivée au pouvoir est une équipe clairement convaincue de vérités ou de paradigmes du néolibéralisme, mais c'est une équipe qui est très fortement appuyés par les pouvoirs locaux du PRI qui, malgré la défaite électorale en 2012, se sont maintenus vivants pendant 12 ans. Fort de cette capacité de créer des alliances politiques, le PRI a réussi à établir un pacte pour le Mexique avec les deux principaux partis d'opposition, le Parti d'Action Nationale de droite et le Parti de la Révolution démocratique de gauche, pour faire passer des réformes majeures à travers le Congrès. C'est peut-être quelque chose dont le président Obama serait jaloux, parce qu'il n'a jamais réussi à faire un pacte semblable. Mais toujours est-il que le président Peña Nieto a réussi à faire passer jusque maintenant 4 réformes majeures, une réforme électorale, une réforme au secteur de l'éducation, une réforme fiscale majeure et plus récemment, la réforme au secteur de l'énergie qui nous occupe maintenant. Et comme faisant preuve de la capacité politique, de la capacité de gestion politique du nouveau gouvernement PRI, la réforme a passé en 72 heures. Le jeudi 12 décembre, comme je disais, le Congrès a approuvé par majorité des voix, combinaison surtout de votes des députés et sénateurs du PRI et du Parti d'Action Nationale, du Parti de droite. La réforme, ça c'était un jeudi. Le lundi suivant, le 16 décembre, 16 législatures locales, 16 législatures d'autant d'États avaient déjà approuvé la réforme. C'était incroyable, du jamais vu pour un processus de réforme constitutionnelle. Bon, il faut quand même dire en quoi consiste la réforme. La réforme change 3 articles constitutionnels, 25, 27 et 28, en ce qui concerne le monopole du secteur de l'énergie accordé à l'État mexicain. Mais la réforme des articles constitutionnels sont plutôt légères, ne sont pas aussi explicites. Le véritable contenu de la réforme se trouve dans des 21 clauses provisoires qui expliquent en grand détail toutes les modalités que la compétition aura désormais. Pemex sera une entreprise comme une autre et le porte du secteur de l'énergie au Mexique sont grandes ouvertes à l'investissement privé. Il n'y a pas eu d'exception concernant la nationalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination qui favoriserait le capitaux mexicain. L'investissement est vraiment ouvert à n'importe qui voudrait faire des affaires dans l'énergie mexicaine. Et bien sûr, aussi dans ces clauses provisoires, le gouvernement mexicain renonce unilatéralement, il faut le répéter, au traitement d'exception que le même parti avait négocié il y a une vingtaine d'années. Alors, quand le plus on regarde la réforme, le plus elle a l'air absurde. Elle a été introduite par le parti qui était censé défendre l'héritage de la Révolution, qui a négocié l'exception de l'ALENA. Mais aussi, la réforme laisse l'État mexicain dans une situation de vulnérabilité financière et politique majeure. Ce n'est pas un hasard, par exemple, que la réforme fiscale a été approuvée avant la réforme du secteur de l'énergie, parce que maintenant, à partir de cette année, le gouvernement mexicain va devoir trouver des sources alternatives de revenus, parce que la rente pétrolière sera désormais partagée avec des investisseurs étrangers. Alors, je trouve qu'il y a là un paradoxe qu'il faut comprendre. Comment ça se fait qu'un État fièrement nationaliste jusqu'à il n'y a pas longtemps, tout d'un coup a décidé de commettre harakiri et a fait passer cette réforme, n'est-ce pas? Bon, en fait, théorie, je fais appel à deux politicologues qui ont étudié le processus de prise de décision en politique publique, Hugh Heckler et Peter Hall. Eckler rappelle que les idées ont un rôle très important à jouer dans le processus de prise de décision en politique publique. Il dit que le preneur de décision ne prend pas en compte que la politique partisane. La prise de décision, c'est aussi un processus d'apprentissage social, comme il l'appelle. Le bureaucrate et les politiciens prennent des idées du contexte social où ils vivent. Et cette empreinte d'idées est très sélective. Ça dépend en grande partie du prestige que certaines idées ont à un moment donné de la conjoncture politique. Et aussi, les idées sont hiérarchisées dépendamment de la source d'autorité qui les émet. Peter Hall reprend les idées de Heckler et les pousse un peu plus loin en proposant que les politiques publiques bougent d'une façon semblable que le paradigme scientifique tel que théorisé par Thomas Kuhn. Et alors, parfois, quand les décideurs se trouvent dans une situation d'incertitude, il y a des possibilités qu'ils adoptent un nouveau paradigme et que ces paradigmes viennent chambarder tous les processus précédents de prise de décision. Alors, ce que je vous propose, c'est que l'ALENA a exprimé le début de cette transition de paradigme et que la réforme du secteur de l'énergie est la culmination de ces processus. Je n'ai pas beaucoup de temps pour rappeler le fait. Il suffit de dire que l'ALENA était possible grâce à l'arrivée au pouvoir d'une équipe de technocrates dirigée par le président d'alors Carlos Salinas, qui ont forcé une nouvelle façon de penser sur le décideur en politique économique dans le pays. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout, comme on l'a vu, parce que même là, ils étaient conscients de l'importance du secteur de l'énergie pour le Mexique et ont donc exigé l'exception dont je vous ai déjà parlé. 20 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant, il y a une nouvelle équipe du PRI, du même parti au pouvoir, encore une fois dirigé par des technocrates. Cette fois-ci, l'auteur de la réforme, c'est le ministre des Finances, Luis Videgaray Caso, qui lui aussi, à l'instar des autres décideurs des années 90, a étudié l'économie orthodoxe dans une école des États-Unis, le Massachusetts Institute of Technology, et qui défend avec des arguments puissés de cette théorie les nouvelles mesures. Mais aussi, et ça c'est curieux, c'est intéressant de voir, c'est que Carlos Salinas est toujours derrière Peña Nieto, fait toujours partie de l'équipe de décideurs de politique. D'accord. Donc, on fait face à un nouveau paradigme de l'aveu de politiciens du PRI eux-mêmes. Rapidement, juste pour poser la question, est-ce que cette réforme exprime aussi un nouveau consensus social? Autrement dit, est-ce qu'elle est le produit d'une élite seulement ou la majorité des Mexicains sont derrière la réforme? Il est difficile de tirer des conclusions définitives à partir des sondages qui ont été faits, parce que, comme vous voyez sur ce tableau-là, les écarts d'un sondage, d'une maison de sondage à l'autre sont considérables. Il y a une régularité pourtant qu'on peut voir. Du moment où les sondages sont faits face à face, l'opposition à la réforme est plus haute. C'est-à-dire, on sait qu'au Mexique, les classes moyennes ont plus de probabilités d'avoir des lignes de téléphone fixes. Alors, les classes moyennes sont plus favorables, plus en faveur de la réforme, et que les classes populaires. je voulais vous raconter un petit peu sur ce que la gauche et d'autres groupes sont en train de faire pour essayer de faire de révertir la réforme. Ces efforts peuvent être inutiles parce que le gouvernement mexicain est déjà en train de signer des contrats avec des pétrolières étrangères, notamment à Davos en janvier dernier, avec la pétrolière Lukoil, la pétrolière russe. Ouais. J'ai fini. Dernière conclusion.